pour transposer la question dans un autre contexte, imaginez-vous qu'un être d'une autre planète vienne ici, que vous appelez, vous, des extraterrestres, et que vous lui parlez ou que vous lui affichiez cette question. Ça n'a aucun sens. Parce que pour un être d'une autre planète, la condition psychologique de son mental est inversement proportionnelle à la dynamique vibratoire de son mental. C'est-à-dire que dans son mental, il y a un influx d'énergie qu'il synthétise instantanément à cause du fait qu'il n'a pas d'émotion. Donc, il n'est pas capable, cet être-là, d'être en désharmonie vibratoire énergétique entre le médium universel de l'énergie et sa composante ou toutes ses composantes humanoïdes. Donc, c'est un être qui est totalement à l'aise dans le cosmos, un peu comme le poisson est totalement à l'aise dans l'eau. Tandis que l'homme, lui, est dans une situation inverse. L'homme possède suffisamment d'émotions dans son mental pour être capable de caractériser le mot, la parole ou le concept, et donner au mot ou la parole ou au concept une émotion suffisante pour le ramener dans la mémoire de l'humanité, autrement dit, pour le ramener dans l'ignorance de l'humanité. Donc, pour l'empêcher de faire éclater la forme qui éliminerait de sa vie l'expérience du phénomène spirit qui colle à sa peau. C'est pour ça que il est de plus en plus nécessaire que nous développions au cours des générations qui viennent une nouvelle psychologie, c'est-à-dire une psychologie qui n'est pas fondée sur notre façon de penser, mais une psychologie créée instantanément par notre nouvelle conscience. Donc, ayant une nouvelle conscience, nous pourrons créer une nouvelle psychologie instantanément, donc nous ne serons plus prisonniers des formes de pensée, de la façon de penser, qui dénote nos attitudes et qui nous enserre automatiquement dans une sorte de crainte qui nous force à prendre au sérieux des concepts qui ont l'impression d'être véridiques, mais qui, dans le fond, n'ont aucune réalité. Autrement dit, un homme qui serait totalement intégré dans son énergie, qui entrerait en contact avec ces plans que nous appelons les plans astraux, ou les plans de la mort, serait un homme qui ne serait aucunement touché ou bouleversé par la phénoménalisation de la mémoire, ou par l'ontologie formelle de l'énergie. Il serait totalement libre de cette forme, parce qu'il n'aurait pas d'émotion en lui pour interpréter psychologiquement ou mentalement la valeur de la forme basée sur le principe foncier de son ego qu'on appelle la crainte. Donc, l'homme pense d'une certaine façon parce qu'il y a en lui de la crainte qui l'amène à penser ainsi et qui automatiquement rend sa conception, sa fausse conception ou sa conception erronée, qui la rend valide, il lui donne du poids. Ça va loin. Donc, à la question... Qu'est-ce que c'était la question? La question. Bon. Je faisais dernièrement une cassette pour le public. Et je disais dans la cassette, je venais de découvrir que le mot esprit, tel que nous le concevons spirituellement, religieusement, est un mot qui nous a été donné par les grands prêtres ou les prêtres du passé. Donc, le mot esprit est un mot qui contient la personnification d'une entité, et la personnification de cette entité est le résultat de la conscience primitive astrale des prêtres du passé. Que ce soit des prêtres sorciers des Indes, ou que ce soit des prêtres sorciers d'Amérique du Sud, ou que ce soit des prêtres plus conventionnels de la chrétienté primitive, le mot esprit est un mot qui convient spirituellement, qui convient au niveau de la crainte, à une humanité primitive, mais qui ne peut pas être exercée dans sa pression, dans son impression, contre l'intelligence de l'homme qui sait. Autrement dit, qu'est-ce que c'est que ça veut dire, l'homme qui sait? Ça veut dire l'homme qui est capable de faire éclater la forme. Si un homme est capable de faire éclater une forme, et l'homme devra un jour pouvoir faire éclater toutes les formes, d'ailleurs c'est comme ça qu'il créera une nouvelle science. Si l'homme est capable de faire éclater une forme, qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chercher dans l'éclatement de la forme une nouvelle vibration qui lui donne une conscience mentale supérieure de ce qu'il connaissait auparavant et qu'il avait établi auparavant comme étant de la connaissance sérieuse. Parce qu'en fait, cette connaissance était sérieuse pour le temps, mais n'est plus sérieuse pour le nouveau temps. Donc, n'est plus sérieuse pour l'homme nouveau. L'homme aujourd'hui est encore prisonnier de la nécessité de savoir. de connaître le vrai ou le faux. Pourquoi l'homme cherche-t-il à comprendre le vrai ou le faux, à savoir si une chose est vraie ou si une chose est fausse? La simple raison pour laquelle l'homme vit cette polarité, c'est parce qu'il pense. Si l'homme ne pensait pas, s'il n'avait pas à être assujetti à un phénomène spirit au niveau de son corps mental, il n'aurait pas à vivre cette polarité. Si l'homme n'était pas assujetti à cette polarité, il ne serait pas prisonnier du phénomène spirit. Donc, il n'y aurait pas en lui de conscience subjective, humaine, planétaire, archaïque, de ce que nous appelons la spiritualité occulte ou le spiritisme occulte. La médecine, la psychologie moderne qui confronte, par exemple, la magie noire ou la magie, les œuvres sataniques, la psychologie moderne a découvert qu'un homme qui ne croit pas à ces choses n'est pas affecté par ces choses. Et c'est très juste. Pourquoi un homme qui ne croit pas à une chose n'est pas affecté par la chose? Parce qu'il ne donne pas à la chose la valeur émotive dans son mental qui permet à la chose, au niveau de la forme, de devenir un aspect de sa connaissance. Donc, ne donnant pas à la chose une émotion qui donne à la forme un aspect de la connaissance, l'homme se désengage de la valeur de la connaissance qui est plus primitive et qui fait partie de la connaissance d'un autre homme qui essaie de manipuler cette connaissance contre lui, mais qui ne peut pas le faire parce que lui est dans une autre sphère. Donc, aussitôt que l'homme change de sphère, c'est-à-dire qu'aussitôt que l'homme change de palier vibratoire dans son mental, il ne peut pas avoir de relations psychologiques, émotives ou mentales avec la forme d'une pensée qui convient à un autre homme qui est dans une autre sphère du mental inférieur. Il ne se raccorde plus. Celui qui est dans la sphère plus élevée peut très bien comprendre celui qui est dans la sphère ou ce que dit celui qui est dans la sphère inférieure. Il peut le comprendre, il peut le respecter, mais il ne peut pas être affecté par ce que l'autre dit, puisque la vibration de la lumière qui entre de la mentale dans le mental d'un homme qui est dans une autre sphère, est une vibration qui est trop basse. Donc, il ne peut pas être affecté au niveau de la forme par l'émotion qui est générée par l'autre homme et qui donne à la forme l'importance de la connaissance. Donc, lui, il est libre de cette connaissance-là. Donc, automatiquement, la phénoménalisation et la compréhension philosophique ou ontologique de ce phénomène, de cette question, n'existe plus. Comprenez-vous? Nous devons, les hommes de la Terre, commencer à reprendre le contrôle de la forme que nous avons perdu au niveau ou aux mains de la hiérarchie. Nous devons, les hommes de la Terre, prendre contrôle de la forme que nous avons perdu aux mains de la hiérarchie. Et quand je parle de la hiérarchie, je parle de toute cette être-té collective qui compose sur le plan matériel ce que nous appelons le pouvoir, ou qui compose sur le plan occulte le pouvoir. Donc, que l'homme soit prisonnier du pouvoir sur le plan matériel, ce que j'appellerais le résultat de l'exploitation psychologique, ou que l'homme soit l'expression sur le plan occulte du pouvoir, que j'appellerais l'exploitation occulte du mental humain, l'homme un jour, l'homme supramental, le surhomme de demain, autrement dit l'homme qui sera au-delà des conditions planétaires de vie et d'existence, cet homme comprendra que les lois de la vie engendrent l'expression de la vie et neutralisent les formes de la vie qui, dans le passé, ont servi à la formation d'une sphère inférieure, qui a servi dans le passé à l'évolution, qui, dans le passé, a servi à ou au développement de la connaissance pour lui. C'est un peu la réponse à la question.
Un peu. Alors, j'ai divisé maintenant les questions en commentaires, questions concernant Bernard, avenir de Bernard et avenir du monde, et quelques questions ésotériques que je garderai pour le dessin. C'est la première fois que je viens écouter Bernard, et je me rends compte que ça me plaît. Je résume, non? Pourrais-je continuer seul, ou devrais-je simplement me contenter d'un éclair une bonne fois?
Pourrais-je continuer seul? Les hommes sont seuls.
Comme il est seul.
Le rôle de Bernard a été de...
Le rôle de Bernard, c'est un rôle social. Le rôle de Bernard. C'est pour permettre que s'enracine dans une conscience nationale, collective, une certaine conscience, une certaine perception, une certaine façon de voir les choses. Mais ensuite, l'homme, il est seul. Il y a suffisamment de conscience dans le monde. L'homme, aujourd'hui, vit la mutation psychologique de son mental. Il y a des hommes en Afrique, il y a des hommes en Europe, en Amérique du Sud, qui vivent cette transmutation du mental. Donc, la seule fonction de ce que je dis, c'est de créer un point de référence qui est accessible à tous et éventuellement accessible à tous dans toutes les langues pour faciliter le passage d'un stage à un autre stage. Mais l'homme, lui, il y a des hommes aujourd'hui sur le plan humain qui sont très près d'eux-mêmes. Et je vais vous le dire pour répondre d'une façon brève à cette question que beaucoup de gens peuvent me demander. Tous les hommes ont accès à eux-mêmes s'ils s'en donnent la chance. Ils n'ont qu'à surveiller leur ego. C'est l'ego qui est le problème de l'homme. Ce n'est pas la science. Tous les hommes ont la science. Ah, en 69, quand j'ai vécu la fusion, j'étais seul. J'étais dans la jungle, j'étais seul. Je ne pouvais pas aller à Richard Lane et dire « Qu'est-ce que tu penses? Je suis quoi? Je suis... » Je suis rendu Popeye. Hein? Donc j'étais seul. Je devais vivre mon expérience seul. Expérience qui m'a amené à ce que je fais aujourd'hui. Donc, l'homme, probablement, dans le monde, a l'avantage aujourd'hui d'avoir un homme qui peut parler. Moi, je suis un homme qui peut parler. Mais ce n'est pas parce que je suis un homme qui peut parler que l'homme dans le monde a besoin de moi. L'homme dans le monde n'a pas besoin de moi. L'homme dans le monde a peut-être besoin d'un peu de clarté, un peu d'explication de certaines choses. Parce que peut-être que l'homme dans le monde n'a pas la capacité de vivre, de subir la pénétration de l'énergie comme moi je l'ai vécu. Ça, je suis d'accord. Mais l'homme dans le monde n'a pas besoin de moi. L'homme dans le monde a besoin de lui-même. Et si les hommes, et si l'homme est capable d'apprendre à travers ce que je dis ou à travers ce que d'autres disent, qu'il y a en lui de la connaissance et qu'il est capable de coller à sa connaissance, de vivre un peu sa connaissance, un peu comme Glenn l'a fait. Ce n'est pas moi qui a fait Richard Glenn. Richard Glenn, il était au monde avant que moi je fus. À ce moment-là, les hommes ont la chance un jour de coller, ils ont la chance de comprendre, ils ont la chance d'être sur une longueur d'onde qui est universelle. Tant que l'homme, c'est très bon que je parte aujourd'hui, c'est très bon que je me retire du public, c'est très bon, parce que je deviens une béquille, et plus je regarde, à tous les ans, la béquille devient plus grosse, et plus grosse, et plus grosse, et plus grosse, je commence à me sentir comme papa. Il faut que l'homme vive sa propre expérience. Nous donnons des clés, mais l'homme doit vivre sa propre expérience. Ça, c'est important. Sinon, on retourne dans le passé, on retourne à la vieille ritournelle du maître et du disciple. C'est fini, le maître et le disciple. C'est fini. Ça va finir. C'est inévitablement sur son point d'extension. Extinction.
J'ai deux commentaires ici. Monsieur, je ne peux pas vous poser de questions, car je ne crois pas que vous soyez réponse. C'est un commentaire. C'est que la réponse est peut-être en lui. Une autre ici. Je souhaite que ce soit une dame. Bernard, tu pars, alors j'ai décidé de partir avec toi. Partout où tu seras, je serai à tes côtés. C'est peut-être Pierrette, ton épouse.
J'espère.
Est-ce que vous rendrez vos cassettes de séminaires disponibles au grand public chez Orandia? Je rajoute.
C'est une très bonne question, ça. D'ailleurs, c'est quelque chose qui m'est venu à l'esprit. Et si je le fais, je ne le ferai pas à Orandia. Si je le fais, je le ferai à la librairie de François Payotte. Si je le fais, je le ferai à la librairie de François Payotte. J'ai donné à Richard certaines choses. Je dois donner à François Payotte autre chose. Et je dois donner à d'autres autre chose. Sinon, ça fait trop de rassemblements, trop de... Alors, si je le fais, ce sera à la librairie de François Payotte. Si je le fais, je ne sais pas.
À ce titre-là, Bernard, il y a le groupement Pi. Quelle est votre relation avec le groupement Pi? Il y a des gens qui pensent que vous êtes...
Non. Le groupement Pi, c'est un groupement, c'est l'activité d'un certain nombre de personnes pour un certain nombre de personnes, permettant à ces gens-là de socialiser leur intelligence, de donner à leur intelligence une forme sociale à un niveau ou à un autre, que ce soit dans un domaine ou dans un autre. Moi, je ne suis pour rien dans ce mouvement-là. Je suis content qu'il se fasse. Je le vois d'un bon œil. Mais il y a, d'ailleurs, dans ce mouvement-là, il y a une expérience très profonde chez les gens, parce que l'homme qui entre dans la conscience supramentale et qui commence à travailler avec d'autres personnes dans un mouvement parallèle, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc, il y a une très grande expérience. Et je crois qu'éventuellement, au cours des années, le mouvement Pi se changera, se transformera constamment. Il deviendra, dans 8 ou 9 années, un mouvement, c'est-à-dire une force créative de grande importance, mais pas avant 8 ou 9 années. Et pendant cette période, il y a une transmutation, il y a une transformation des relations humaines, il y a des choses qui se feront. Moi, probablement, j'éditerai à travers ce mouvement Pi, et je leur donnerai aussi de mes œuvres, ainsi de suite, pour amener de l'eau au moulin, pour que ces gens puissent continuer à faire un certain travail.
À quelle date environ sortira votre premier livre, et quel en sera le titre? Tantôt, vous avez laissé entendre que vous connaîtriez le titre de votre premier livre.
Il y a un titre, le seul livre dont je connais le titre sera en anglais, il ne sera pas en français. Il s'intitulera The Psychic Connection. Ce sera un titre, un livre publié en anglais pour le peuple américain et le peuple européen anglais. Et moi, quand j'écris en anglais, je n'écris pas la même chose que j'écris quand j'écris en français. Donc, c'est un autre genre de livre. Et ce livre-là sera probablement publié aux États-Unis. Mais ça s'intitulera The Psychic Connection.
Et dans combien de temps?
Je calcule entrer dans l'édition, je suis déjà mentalement dans l'édition, mais je calcule aller dans l'édition d'ici 84-85. Je suis dans ce mouvement-là, j'ai commencé déjà à préparer la base pour ça.
Les séminaires se terminent quand?
Les séminaires, je les termine quand je serai fatigué. Mais je commence à être fatigué. Et 84, il faut arrêter quelque part, il faut... Quand je serai fatigué, j'ai commencé à être fatigué. C'est fatigant de faire un séminaire, parce que je suis obligé de combattre l'ego.
De la fatigue, quelqu'un dit, sommes-nous réellement les ouvriers de la 11e heure? Je crois qu'on était fatigué.
Oui, c'est pas mauvais, seulement qu'il y a des ouvriers qui sont déjà rendus à minuit. Et ceux qui sont rendus à minuit sont réellement fatigués.
Avez-vous des exercices spirituels ou supramentaux à nous suggérer pour qu'on puisse évoluer?
J'ai déjà répondu à cette question. Je mange beaucoup de cornflakes.
On a appris aussi par plusieurs de vos conférences que vous buvez du coke chez Eaton.
Vous savez, l'esprit dans l'homme, les gens se préoccupent beaucoup d'exercices spirituels et de toutes sortes. Mais l'esprit dans l'homme, quand il est fort, il fait tout.
Est-ce que lors de la fusion, il y a une manifestation ou une métamorphose, autant sur le plan physique, physiologique, intellectuel, psychique?
Sur tous les plans.
Physique aussi?
Oui.
Dans un premier temps, vous expliquez votre retraite, entre guillemets, comme la façon d'effacer Bernard de Montréal. Alors pourquoi, dans un deuxième temps, acceptez-vous de poursuivre votre carrière publique avec Richard?
Je ne poursuis pas. Cesser ma carrière publique, c'est de ne pas être moi en public. Si je suis à la télé à travers un écran, ça ne me dérange pas. Mais moi-même, physiquement, je ne veux plus être en public.
Que deviendra Bernard de Montréal lors des prochains événements importants qui surviendra à l'homme de demain?
Je serai certainement dans le coin.
Que deviendra Bernard de Montréal lors des prochains événements importants qui surviendra à l'homme de demain?
Je serai certainement dans le coin.
De quoi?
Dans le coin.
Dans le coin? Oh, j'avais compris. De quoi? Qui est Bernard de Montréal, l'imposteur, entre guillemets? Avez-vous parlé d'un Bernard de Montréal, l'imposteur?
Bernard de Montréal l'imposteur, c'est celui... Bernard de Montréal l'imposteur, c'est Bernard de Montréal qui n'est pas compris. Ce sont les gens qui pensent qu'ils se prennent pour quelque chose, qui ont l'impression qu'ils se prennent pour quelque chose. Et lui est obligé de vivre le poids de cette observation de la part du public. C'est pour ça, c'est une des raisons pourquoi il se retire.
Comment évoluera l'enfant de la 6e race? Et comment peut-on l'aider en tant que parent?
L'enfant de la 6e race sera un imposteur à la 5e.
Comment peut-on l'aider?
Il s'aidera par lui-même, parce qu'il aura la force de savoir. C'est la force de savoir qui le propulsera dans son évolution. Un homme qui sait, qui sent, même s'il y a des voiles, même s'il y a un peu de coloration astrale dans son mental, il sait. Il y a des hommes qui viennent au monde, qui ont 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ans, qui savent. Ils savent quelque chose. Ils ne comprennent pas ce qu'ils savent, mais ils savent. Et c'est cette force qui propulsera cet enfant.
Question suivante. À quel degré est notre vie programmée à l'avance?
Notre vie, elle est totalement programmée à l'avance. 100%.
On peut dire que par l'astrologie, on peut commencer à décoder des choses, des codes.
Par l'astrologie, on peut commencer à décoder comme on peut commencer à déconner. Ça dépend sur quel point.
Bernard a déjà dit qu'il y avait un parallèle entre l'évolution juive et celle du Québec. Peut-il nous dire de quel parallèle il s'agit?
Le peuple juif a vécu une initiation cosmique. Le peuple québécois vivra une initiation cosmique. Le peuple juif a eu une grande importance sur le chemin historique de l'homme. Le peuple québécois aura une grande importance sur le chemin historique de la future humanité.
Sans y mettre d'égo, là, je vous pose la question. Si quelqu'un, en écoutant votre réponse, se disait, c'est que Bernard se prend pour un nouveau Christ.
À ce moment-là, je serais obligé de dire que c'est un...
Comment ça serait traduit, ça, dans un livre?
Dans un livre, il faudrait l'écrire, s'il fallait l'écrire. Il faudrait dire que le type n'a pas de crise de bon sens.
Question suivante. Vous semblez éviter de parler de la nature des événements que nous allons vivre après votre départ. Est-ce que je me trompe? Vous semblez vouloir éviter de parler de la nature de certains événements qui vont arriver après votre départ.
Pourquoi associer toujours les événements à mon départ? C'est déjà de l'interprétation, c'est déjà de la manipulation psychologique, c'est déjà de la... C'est pas bon.
Quelqu'un qui sait les événements et qui dit que tout est programmé, il le sait, et il ne se laisse pas manipuler. Donc, quand il agit en connaissance de cause, en conscience de cause. Alors, s'il se retire, c'est parce qu'il sait pourquoi.
Mais oui, mais savoir pourquoi on se retire, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on se retire. Qu'on se retire, c'est ça fait partie d'une nécessité. Savoir qu'on se retire, c'est simplement l'expression de cette nécessité. Si je me retire en 84 et qu'on lie des événements au fait que je me retire, c'est simplement c'est de l'interprétation. C'est assujettir son propre ego à un autre ego qui serait le mien. C'est pas bon. C'est comme si on disait, qu'est-ce qui va se produire? Quel grand événement dans la province de Québec ou dans le Canada va se produire quand Trudeau va laisser la politique? Trudeau laisse la politique. S'il laisse la politique, c'est parce qu'il en a ras-le-bol de la politique, puis il fera d'autres choses. Mais c'est son temps à lui de laisser. Si c'est son temps à lui de laisser, c'est la même chose pour moi. Je laisse parce que je laisse. J'ai des raisons pour lesquelles je laisse. Mais il ne faut pas associer mon départ avec toute une révolution cosmique dans les événements. C'est ridicule. D'ailleurs, vous demandez une question. Pourquoi? Pourquoi on ne répond pas à l'homme? Pourquoi on n'explique pas à l'homme les événements cosmiques qui sont reliés à une personnalité cosmique? Parce que sur le plan humain, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas voir la relation entre un événement cosmique et une personnalité. On ne peut pas. Et si on le fait, il faut être occulte. Si on n'est pas occulte, on ne peut pas le faire. Et ce serait totalement imposer une condition psychologique de pensée à une collectivité de gens. Ce ne serait pas intelligent, ce serait un manque d'intelligence. Je laisse parce que je veux m'ouvrir un petit magasin de patates frites.
Maintenant, je lis dans la série de questions un peu ésotériques. Qu'est-ce que l'homme va découvrir dans les espaces-temps parallèles?
Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai des amis dans la province de Québec. Des gens réellement merveilleux. Et ce qui est le plus merveilleux, c'est que ces gens qui sont réellement merveilleux se foutent de moi. Ils vivent, ils font leur... Ils vivent, ils comprennent ce que je dis, et ainsi de suite, d'accord. Mais moi, je suis là, eux autres sont là. Pas d'allier ensemble. Et l'homme doit apprendre ceci. L'homme doit apprendre à être dans son propre espace et ne pas être bousculé par le mouvement d'un autre homme. Nous sommes très spirituels. Et autant j'ai travaillé pendant des années pour transformer la conscience de la spiritualité pour l'amener à un état d'intelligence, autant il y a des hommes qui sont trop près de moi. Il faut qu'il y ait de la distance. Si je m'en vais, je m'en vais, c'est final. De là à lier des événements, ça c'est du Nostradamus. C'est faire du Nostradamus avec Bernard de Montréal. Ah, pas bon.
N'oublions pas que le Christ, quand il s'est quitté aussi, il avait dit « Ce temple sera détruit et je le rebâtirai en 3 jours » et quelques temps après, ça a été détruit.
Mais oui, mais le Christ, c'était le Christ. Écoutez, on vient de le dire.
Comment, s'il vous plaît, l'esprit pourrait-il venir par la femme? Pourquoi la femme est toujours traitée en inférieur dans les systèmes sociaux, politiques et religieux?
Je vous assure que la femme du 21e siècle, elle sera aussi noble et aussi glorieuse que l'homme. La femme du 21e siècle sera à la mesure d'elle-même, elle sera à la page. Elle a été dominée à cause de l'évolution, elle a dû servir pendant l'évolution parce qu'elle devait apprendre à écouter. Maintenant, elle n'a plus à apprendre à écouter la femme, elle doit parler. Et la femme du 21e siècle parlera, elle sera mentale comme l'homme, elle ne sera plus la servante du Seigneur.
Et en passant, j'ai fait connaître Bernard il y a 7 ans, et je m'engage ici une lune à peine à faire connaître une femme que personne n'imagine présentement et qui est ici au Québec et qui va... Vous voyez, il n'y a plus de rideau, hein? Il faudrait le dire aux gens qui ont la cassette présentement. Bernard a donné sa dernière conférence dans la même salle depuis plusieurs années, et il n'y a plus de rideau sur la scène. Et on disait à la dernière conférence, bon, le voile est déchiré parce que le rideau, il était déchiré. Mais là, il n'est plus là. C'est peut-être un signe. Et c'est une femme qui va suivre Bernard, et suivez de près, elle va en surprendre plusieurs, comme Bernard a surpris au début, elle aussi, et d'autant plus qu'elle est femme. Et les autres surprises viendront par après. J'espère que les femmes feront confiance à cette femme.
Ce serait intéressant.
En partant. Parce qu'il y a des gens préjugés, hein, parce que c'est un préjugé, ça.
Oui, mais il ne faut pas les blâmer, parce que les femmes intérieurement, les femmes dans leur propre constitution interne, déjà, n'ont pas la capacité de saisir la certitude. Donc, elles ont de la difficulté à la projeter. C'est dur pour une femme, pour la femme qui fait partie d'un genre humain, de donner du crédit à une autre femme. C'est très difficile parce que son histoire, son histoire la répugne. Tandis que pour un homme, c'est beaucoup plus facile. Il y a eu des Napoléons, il y a eu des hommes, il y a eu des as, et ainsi de suite. Tandis que la femme, il y a eu quelques as, mais il y avait des épines aussi. Donc, c'est très difficile pour la femme, mais aujourd'hui, nous regardons sur le plan politique, il y a des femmes aujourd'hui qui commencent à naître. Dans l'ésotérisme, ça viendra. Mais il y a plus de femmes dans l'ésotérisme qu'il y en a dans la politique. Il y a beaucoup de femmes dans l'ésotérisme. Seulement, le problème avec les femmes dans l'ésotérisme, c'est qu'elles ont tous les yeux dans la graisse de bine. Si elles avaient l'œil de faucon, l'œil clair, la sagacité, la capacité de l'ego d'absorber l'énergie de l'esprit, de transformer la forme, ces femmes seraient merveilleuses. J'espère que cette femme dont vous parlez sera à la hauteur de la conscience nouvelle qui vient. Parce que si elle l'est, elle sera automatiquement reconnue. Parce qu'elle ne pourra pas empêcher que cette énergie passe à travers elle et donne à son intelligence la qualité dont il a besoin pour réellement se rapprocher de l'homme. La femme doit être mentale. Elle doit avoir l'œil d'aigle. Et ça demande beaucoup de souffrance. Ma femme a cet œil d'aigle. Ma femme a cet œil qui transperce, qui peut transpercer, qui peut brûler, parce que elle a froidement l'intelligence dans son mental. Donc, elle est capable d'absorber cette énergie et de la transmettre. Mais c'est la souffrance qui amène la femme à ceci. S'il vous plaît, ne pas le demander. Donc, cette femme dont vous parlez a cette froideur dans le mental, une froideur intelligente. Je ne parle pas d'une froideur frustrée, mais une froideur réellement intelligente. Elle sera reconnue par le public. Et ce sera très bien parce que les femmes sont très intuitives et les femmes doivent canaliser l'énergie de la conscience comme les hommes doivent le faire.
Cette femme, c'est pas Pierrette, votre épouse. Elle est absolument inconnue, mais j'aimerais bien quand même commenter, juste par une très courte parenthèse, on a rendu à César ce qui était à César ce soir, et à votre épouse, il faudrait aussi rendre le fait qu'elle était toujours avec Bernard de Montréal depuis les débuts. Pierrette qui est quelque part. J'aimerais qu'on le souligne. Pourquoi fusionne-t-on à petit peu? Pourquoi tant de douleur quand on prend...
Belle question, belle question. Essayez de vous imaginer que ce que nous appelons aujourd'hui la fusion, essayez de vous imaginer que c'est un phénomène d'énergisation de l'homme à partir de plans invisibles. Et si vous pouvez vous imaginer que le phénomène de fusion, c'est effectivement un phénomène d'énergie ou une vibration très haute, se superimpose sur une conscience inférieure, une conscience planétaire humaine, il faut que l'homme absorbe cette énergie petit à petit, le choc de cette énergie petit à petit, pour ne pas être déséquilibré, désaxé. Et c'est tellement vrai ceci que ceux qui vivront la fusion dans les années à venir réaliseront quelque part dans le temps, plutôt au début qu'à la fin ou qu'au milieu de leur expérience, ils réaliseront un phénomène particulier. Et il ne faut pas le cacher, ce phénomène. Donc je prends l'occasion pour en parler. Que l'homme soit possédé par les forces sataniques, ou que l'homme soit possédé par les forces du mental supérieur, ou les forces de la lumière, au début, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas de différence entre un homme comme moi, qui est possédé par les forces de la lumière, ou un homme qui est possédé par les forces sataniques. La seule différence, c'est que dans un cas, il est possédé par des forces noires, autrement dit des forces négatives, tandis que dans l'autre cas, il est possédé par des forces créatives jusqu'au jour où il est suffisamment puissant en lui-même, suffisamment intégré dans sa fusion pour contrôler cette possession et la neutraliser. Autrement dit, pour amener cette énergie sous son contrôle. L'homme, ça fera partie des grandes souffrances des fils de la lumière de demain. La descente de l'énergie supramentale sur la Terre, sa connexion avec le mental humain, la désorientation du mental et la destruction graduelle de l'émotivité animale de l'homme créera dans cet homme au début l'impression d'être possédé par cette énergie. Et effectivement, c'est de la possession parce que cette énergie fusionnera, c'est-à-dire qu'elle fera un avec lui dans le temps. Et c'est dans le temps, après un certain nombre d'années, qu'il aura la capacité de contrôler cette énergie, de la faire descendre de la matière et de transformer ce que j'appelle l'esprit ou l'entité de l'esprit de l'homme en énergie. Et un jour, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure au niveau de la première question vis-à-vis les coques ou les entités astrales qui collent à l'homme. Un jour, l'homme intelligent, l'homme conscient, l'homme cosmique, l'homme fusionné, découvrira, saura, comprendra toutes les lois de ce que nous appelons l'esprit. Et comprenant toutes les lois de ce que nous appelons l'esprit, il aura traversé l'espace-temps astral. Ayant traversé l'espace-temps astral, il sera dans un autre espace-temps. Et de là, il pourra comprendre parfaitement tout. Donc, il n'y aura aucun voile devant lui. Et, comme disait le grand Stanner, il ira dans les espaces absolus avec sa propre lumière. Il n'y aura aucun guide spirituel pour l'aider. Il n'y aura aucun support spirituel en lui pour l'aider. Il sera seul dans sa grande solitude cosmique. Il sera porteur de sa propre lumière et il ira là où il veut, dans le cosmos, dans le mental, sur les plans qui lui seront nécessaires pour aller chercher ce dont il aura de besoin pour éclairer l'évolution, pour éclairer l'homme, pour éclairer les lois de l'évolution. Parce que dans le passé, nous avons été enseignés. Dans le passé, il y a eu des hommes qui sont venus sur la Terre et qui nous ont enseignés. Il y a eu des hommes qui sont et qui ont été en contact avec des hommes occultement pour l'enseigner. Je dis que demain, lorsque l'homme entrera dans la sixième initiation, lorsque l'homme entrera dans l'évolution de la conscience supérieure, il n'y aura plus d'enseignement. L'homme ne pourra plus être enseigné. L'homme sera lui-même son propre maître. Il ira chercher lui-même la nourriture dont il a de besoin pour donner à son corps mental la vibration nécessaire pour l'exécution dans la matière d'un plan créatif qui sera le produit du secret de sa fusion, c'est-à-dire le produit du secret entre son ego mortalisé et son ego immortalisé. Et l'immortalisation de l'ego de l'homme représentera ce que dans la cosmogonie durantia on a bien dit lorsqu'on a parlé du cormoran ciel. Donc l'homme aura un ego psychique comme il aura un ego planétaire. Et les deux ensemble formeront une étincelle, un tourbillon d'étincelles. Et ce mouvement d'énergie sera la constante universelle de l'homme, ce sera le point de départ de l'évolution future de l'humanité, de l'homme, de l'individu, ce sera le début de l'immortalité de l'homme, c'est ce qui l'amènera à l'intemporalité ou à l'éternité. Donc l'homme doit comprendre aujourd'hui, avec les années qui viennent, il doit comprendre qu'il n'est plus esclave de la mémoire, qu'il n'est plus incapable de faire éclater la forme, qu'il a le pouvoir interne de faire éclater cette forme s'il a la capacité psychologique, émotive, d'absorber le choc qu'elle crée en retour. Si l'homme est capable d'absorber le choc que crée en retour l'éclatement de la forme, à ce moment-là, il a la capacité d'intégrer l'énergie de la forme, donc il a la capacité d'avancer dans la conscience supramentale pour changer le taux vibratoire de ses neurones pour que demain il devienne télépathique avec d'autres intelligences sur des plans parallèles. C'est réellement le fond de mon message, ce que je dis, quand je dis que l'homme demain n'aura plus à demander d'opinion à personne pour savoir ce qu'il sait, et il n'aurait plus besoin d'équilibrer ce qu'il sait avec d'autres opinions pour avoir la certitude de ce qu'il sait. Et lorsque l'homme sera dans cette conscience, il sera bien, et c'est à partir de ce moment-là que nous pourrons dire que l'homme peut être un être heureux sur la terre, pas avant.
J'aimerais me faire expliquer quelque chose, Bernard, alors qu'il reste à peine quelques minutes. Lorsque ma mère était sur le point de décéder, j'ai entendu une voix très forte me dire « Manet et Selfares », que dans mon oratoire cet après-midi, je pensais à notre soirée. J'ai entendu une voix très forte qui m'a dit « Vade retro Satanas ».
C'est très intéressant. L'homme comprendra une chose, que plus il avance dans ce que nous appelons la conscience, plus il avance dans la conscience, plus il avance dans sa lumière, dans la lumière, plus l'astral en lui travaille pour créer en lui de la confusion, pour retarder son avancement, c'est absolu ça. Et le plus spectaculaire de tout ceci, c'est que aujourd'hui dans le monde, l'astral devient tellement puissant que seuls ceux qui sont forts, pourront voir à travers. Parce qu'un homme qui est moindrement faible, vous savez d'où vient la force de l'homme? La force de l'homme ne vient pas de son âme. La force de l'homme vient de son esprit. L'âme de l'homme, c'est sa mémoire, c'est son expérience, elle est accumulative. Et l'âme de l'homme se communique avec l'âme d'un autre homme. Donc il y a dans l'homme des réseaux de communication astrale qui s'infectent automatiquement et qui empêche l'homme qui est dans son esprit de devenir plus libre dans son esprit parce que ses forces ont besoin de lui pour se nourrir. Tout ce qui est astral, tout ce qui est animique et qui n'est pas esprit, peut automatiquement vampirise l'ego sur le plan de l'émotion et sur le plan du mental. Et tant que l'ego n'est pas suffisamment fusionné, tant qu'il n'est pas capable d'être 100% sûr dans son intérieur de sa propre réalité, en dehors de la forme que peut faire miroiter en lui l'ego, il n'est pas capable d'être parfaitement certain de sa relation avec le mental, donc il est très facilement amené à la confusion par sa relation évolutive avec l'astral. Et ça, c'est le combat de l'homme, et c'est ce que l'homme demain, au cours de la prochaine génération, devra vivre, le combat pour son esprit, combat qui sera mené jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que nous appelons le Christ ou la conscience christique revienne sur la terre pour faire éclater finalement le monde astral et le neutraliser contre l'homme.
J'ai hâte maintenant de faire la connaissance de Bernard, entre guillemets, l'imposteur.
Bernard l'imposteur, il est très intéressant. Parce que Bernard l'imposteur, c'est Bernard qui utilise la forme pour faire crever l'œil de l'astral. Bernard l'imposteur, c'est celui qui est capable d'utiliser la forme à toutes les sauces pour empêcher que l'astral utilise la forme contre l'homme, afin de protéger l'homme contre l'astral, parce que Bernard, réel, qui se sert de sa souffrance pour camoufler le visage de l'astral, qui se cache dans Bernard l'imposteur. un homme qui n'est pas capable de vivre, de soutenir en lui les deux forces, les forces positives et les forces négatives, un homme qui n'est pas capable de vivre la tension des deux forces, n'a pas la puissance interne de son esprit pour faire la synthèse des deux forces. Donc, il est soit ballotté par une ou ballotté par l'autre. Donc, il est assujetti à ce que nous appelons le mensonge cosmique, d'une sorte ou d'une autre. La vérité est aussi dangereuse pour l'homme que le mensonge. Et si nous regardons l'histoire de l'homme, il y a eu autant de vérités qui ont été mensongères que de mensonges qui ont été vérités. Il y a eu beaucoup de mensonges pour l'humanité extérieure qui ont été vérités pour l'humanité ésotérique, occulte, hermétique. Il y a eu beaucoup de vérités au niveau de l'extérieur qui ont été mensongères pour l'humanité occulte, hermétique et ésotérique. Donc, l'homme découvrira un jour que la vérité et le mensonge sont deux facettes d'une même cosmogonie. Et que lorsqu'il sera dans son intelligence, qu'il sera dans la fusion de son intelligence, il pourra balancer les deux et il sera libre une fois pour toutes de la polarité, de la recherche, acharnée depuis des millénaires pour le vrai et le faux. Il sera simplement dans son intelligence, il sera créatif et il sera intouchable.
Et on entendra, celui-ci est le Fils de la Lumière en qui j'ai mis toutes mes complaisances.
Celui en qui on dira il est le Fils de la Lumière pourra se reconnaître intérieurement parce qu'on lui dira intérieurement qu'il est le Fils de la Lumière. Donc l'homme n'aura pas demandé de conseil à un autre homme pour savoir s'il est le Fils de la Lumière parce que dans les nouveaux temps, l'homme, l'individu lui-même, se réalisera par lui-même. Il n'aura plus de maître.
Merci Bernard de Montréal.